présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Emmanuel Macron envisage de reporter les élections municipales en raison de la crise du coronavirus. Le chef de l'État consulte le président du Sénat, Gérard Larcher. Il pourrait annoncer ce report ce soir lors de son allocution télévisée. Nous ferons le point avec Stéphane Robert dans un instant. En Espagne, on compte désormais 84 morts et près de 3000 contaminations. Le pays est désormais le deuxième le plus touché en Europe après l'Italie. Donald Trump ferme les États-Unis aux Européens pour empêcher la propagation du virus. Le président américain n'aurait même pas pris la peine de prévenir tous les dirigeants de l'UE. Gregory Phillips nous appellera de Washington. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur les conséquences économiques de la crise. Les marchés financiers s'écroulent et la Banque Centrale Européenne préconise des mesures fortes pour éviter la récession. Les explications de Marie Viennot. Parmi les secteurs les plus touchés, il y a les voyagistes, notamment les agents spécialisés dans les voyages d'affaires. Le reportage d'Anne Lorchouin dans cette édition. Va-t-on vers un report des élections municipales dont le premier tour est prévu dimanche? La question est désormais ouvertement discutée au sommet de l'État alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole ce soir à 20h. Le Premier ministre Édouard Philippe avait exclu ce scénario ce matin en recevant les principaux responsables politiques. Mais l'accélération de l'épidémie en France est peut-être en train de changer la donne. On comptait hier 48 morts et 2281 contaminations, près de 500 supplémentaires en 24 heures. Et le ministère de la Santé doit donner ce soir un nouveau bilan. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Que sait-on, Stéphane, sur cet éventuel report des municipales?
Écoutez, il y a tout un tas d'informations qui circulent depuis le milieu de l'après-midi. Alors d'abord, y aura-t-il un report des élections municipales? Une publication du Journal du Dimanche cet après-midi sur son site internet laissait entendre que c'était à l'étude. La procédure de consultation des présidents des assemblées, Assemblée nationale et Sénat, a démarré, nous disait notamment cet article. À la suite de quoi, le président du Sénat, Gérard Larcher, quelques minutes après, a fait savoir via l'agence France Presse que c'était faux, que lui, président du Sénat, n'avait pas été consulté. Depuis, on a appris qu'un échange téléphonique était programmé en fin de journée entre Gérard Larcher et Emmanuel Macron. De ce côté-là, pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations. On sait aussi que la question d'un éventuel report a été évoquée lors du Conseil de défense qui s'est tenu à la mi-journée. Ça, c'est l'Élysée qui indique cette information. À ce moment-là, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, était l'invité du journal de 12h30 sur France Culture. Et à la question d'un éventuel report du scrutin municipal, il répondait ceci.
Ce n'est pas à l'ordre du jour, ça a été redit ce matin dans la réunion qu'on a évoquée tout à l'heure. On est à 2 jours du scrutin, ou 3 jours oui, du scrutin. Oui, oui. Il y aurait quelque chose d'assez invraisemblable.
En quelques heures, l'invraisemblable est donc devenu possible, et même probable quand on pose la question dans les ministères. On nous dit, il y a quelques heures, effectivement, ce n'était pas d'actualité, mais le président, semble-t-il, aurait changé d'avis. Les décisions sont prises, explique notamment un conseiller ministériel au gré des informations délivrées par les médecins et les scientifiques. Et oui, effectivement, il apparaît que ce serait désormais probable, voire fort probable. Un haut responsable de la majorité tempère malgré tout, je pense, dit-il, que la décision n'est pas encore prise. Pour une réponse définitive, on est donc prié d'attendre 20 heures. En attendant, les constitutionnalistes nous disent qu'un report des élections à 3 jours du scrutin est extrêmement compliqué. Il faut une loi et donc il faut convoquer le Parlement. Or, il ne siège pas en raison d'une trêve à l'occasion précisément du scrutin municipal, et faire revenir les députés pour voter cette loi, ça prendrait trop de temps. Seul petit trou de souris, nous dit un constitutionnaliste. Comme le code électoral stipule que les élections doivent avoir lieu en mars, on peut prendre un simple décret pour reporter le scrutin d'une semaine, 22-29 mars, au lieu des 15 et 22 mars, ce qui laisserait le temps de réunir le Parlement, de voter une loi pour reporter les élections de plusieurs semaines, le temps de laisser passer l'épidémie. On verra donc plus précisément ce qu'aura décidé Emmanuel Macron dans moins de deux heures maintenant. Reste que la manière dont est géré cet éventuel report donne lieu à une improvisation qui n'est pas de nature à rassurer la population.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture, merci. Après l'Italie, l'Espagne est devenue aujourd'hui le deuxième pays européen le plus touché par le coronavirus. Le nombre de morts a quasiment doublé pour atteindre 84 décès. Quant au cas de contamination, il s'élève à près de 3000, environ 800 de plus qu'hier. Les fermetures d'écoles se multiplient dans les régions espagnoles et le gouvernement est lui-même touché par l'épidémie. On retrouve à Madrid Marie-Hélène Ballestero, bonsoir.
Bonsoir.
Marie-Hélène, la ministre de l'Égalité, Irène Montero, a été testée positive au coronavirus et son compagnon, Pablo Iglesias, vice-président du gouvernement espagnol, est en quarantaine.
Oui, c'est bien ça. Et c'est justement pour cette raison que le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, va désormais effectuer ses réunions et toutes ses activités sous forme télématique. Alors, en début d'après-midi, il a réalisé ainsi une conférence de presse télématique depuis le palais de la Moncloa à Madrid. Il en a profité pour annoncer toute une batterie de mesures qui viennent en aide, notamment aux PME et aux travailleurs indépendants via un report des impôts pour les entreprises affectées, ainsi que des mesures de liquidité pour les secteurs les plus touchés, comme celui du tourisme. Près de 4 milliards d'euros seront également injectés dans le système sanitaire espagnol. En tout, ce plan de choc pour lutter contre le coronavirus représente plus de 18 milliards d'euros d'aide, soit environ 1,5% du PIB espagnol. Pedro Sanchez a également appelé à la responsabilité, à la discipline sociale et à la responsabilité des Espagnols. Et quelques heures avant, le maire de Madrid, Martínez Almeida, avait lancé un message similaire aux madrilènes en leur demandant de ne sortir de chez eux que si c'est vraiment nécessaire. Parallèlement, la plupart des régions espagnoles ont décidé de fermer tous les centres scolaires et à Madrid, les théâtres municipaux, les musées, les bibliothèques, les centres culturels et sportifs ont également fermé leurs portes. Le championnat espagnol de football a été suspendu et les joueurs du Real Madrid placés en quarantaine à la suite d'un contrôle positif d'un joueur de l'équipe de basket du club.
Marie-Hélène Ballestero en direct de Madrid. L'Italie reste donc de loin le pays européen le plus touché par le Covid-19. 827 morts et plus de 12 000 contaminations recensées hier. Le gouvernement italien a franchi un pas de plus dans les restrictions en ordonnant la fermeture de tous les commerces, à l'exception de l'alimentaire et des pharmacies. Les déplacements des Italiens sont désormais très contrôlés. Le reportage à Rome de Bruce de Galzin.
Il faut une sorte de laissez-passer pour sortir de chez soi, en transport en commun, en voiture et même à pied, un document qui spécifie la raison de ce déplacement en cas de nécessité, pour des raisons de santé ou pour travailler. C'est le cas de Daniel qui nous montre son permis de se déplacer.
On doit remplir cette feuille du ministère de l'Intérieur, tu vois. Là, on écrit d'où on vient et où on va et le montrer à la police, ils t'arrêtent. Ils ont ainsi la situation sous contrôle, même si c'est difficile.
Et quel contrôle ! Un cycliste a été sanctionné car il roulait dans la rue. Et pourtant, le décret du gouvernement autorise les sorties seules pour aller courir ou se dépenser dans un jardin public, par exemple. C'est ce qu'a fait Lucie, une Française qui habite Padoue. Elle est sortie dans le grand parc du centre et a été interpellée.
Je me suis assise sur un banc. La voiture de police s'est arrêtée à mon niveau et m'a demandé de rentrer chez moi. J'étais seule et j'étais loin de tous les autres. Il n'y avait pratiquement personne. La police m'a dit que je risquais de recevoir une plainte. Et ça m'a fait peur, en fait, parce que je me suis demandé si on ne risquait pas d'avoir un abus de pouvoir. Donc c'est inquiétant de voir qu'on peut être limité. Et c'est ça qui fait un peu peur.
Et cette Française, comme encore peu d'Italiens, s'inquiète d'être privé de liberté.
Bruce de Galzin, correspondant en Italie. Aux États-Unis à présent, Donald Trump a pris une mesure radicale hier soir. L'interdiction faite aux Européens d'entrer sur le sol américain pendant 30 jours. À compter de samedi matin, les Britanniques ne sont pas concernés par la mesure. L'Union européenne désapprouve la décision unilatérale du président américain. Ce sont les termes du communiqué de ses deux principaux dirigeants, Ursula von der Leyen et Charles Michel. Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Washington, Grégory, Donald Trump a expliqué aujourd'hui qu'il n'avait pas informé les dirigeants européens de sa décision.
Oui, tout à l'heure, en recevant dans le bureau ovale le Premier ministre irlandais, Trump a expliqué sa décision et surtout, il a confirmé qu'effectivement, il n'avait pas prévenu les dirigeants européens. On en a parlé avec quelques-uns, dit le président américain, sans préciser lesquels d'ailleurs, mais pas tous, car cela aurait pris trop de temps et il fallait agir rapidement. C'est parce que nous prenons nos décisions rapidement que pour l'instant, l'épidémie est limitée aux États-Unis, affirme Trump. On en est ce soir dans le pays à environ 1300 cas de coronavirus, 36 morts, c'est beaucoup moins qu'en Italie ou en France, se félicite le locataire de la Maison Blanche. Nous avons besoin d'isolement, de séparation, dit-il encore, et le virus finira bien par partir. Donald Trump qui annonce aussi que ses prochains meetings de campagne sont annulés. La présidentielle, c'est dans 7 mois et demi. Trump devait se rendre dans le Colorado demain vendredi, et puis samedi à Las Vegas. Le président reste à la Maison Blanche. Cette épidémie de coronavirus chamboule la campagne, et d'ailleurs, on attend dans quelques minutes une déclaration du candidat démocrate Joe Biden. qui doit s'exprimer sur la situation sanitaire dans le pays et la manière dont elle est gérée par cette administration.
Grégory Phillips en direct de Washington. Les États-Unis de Donald Trump n'ont pas le monopole de la fermeture des frontières pour enrayer la propagation du coronavirus. Un peu partout dans le monde, les gouvernements annoncent des mesures de restriction de circulation. Élise Delève, bonsoir.
Bonsoir.
Ces mesures, on les trouve aussi à l'intérieur de l'Union européenne et les Français sont directement concernés.
Oui, deux pays européens ont fait cette annonce surprise cet après-midi. La République tchèque et la Slovaquie, membres de l'UE et de l'espace Schengen. Prague décrète un état d'urgence de 30 jours. Le pays ferme ses frontières aux voyageurs des zones à risque, soit 15 pays, dont la France. Même décision en Slovaquie qui ferme tous les aéroports internationaux et qui déclare « aucun étranger ne sera autorisé à rentrer dans le pays, sauf les Polonais voisins ». Hors Europe, plusieurs pays ferment leurs portes aux Français et aux personnes ayant séjourné en France. Les États-Unis, on l'a entendu avec Grégory Phillips, mais la liste est longue. Les Français ne peuvent plus aller en Jordanie, Liban, Arabie Saoudite, Israël, Salvador, Guatemala, Mongolie et Kyrgyzstan. Cette nuit, l'Inde a suspendu tous les visas accordés aux voyageurs français jusqu'au 15 avril. Une dizaine d'autres pays ont choisi de ne pas interdire la venue des Français, mais demandent une quarantaine à leur arrivée, notamment l'Argentine, le Pérou, la Russie et Chypre. Le Quai d'Orsay publie une liste des pays ayant mis en place des restrictions et recommande à tous de reporter les voyages dans les endroits concernés.
Élise Delève, merci. La fermeture des États-Unis aux Européens affole les places boursières. On va y revenir dans un instant. Mais voyons tout d'abord les mesures préconisées par la Banque Centrale Européenne pour permettre aux économies de la zone euro de traverser la crise. Marie Viennot, bonsoir.
Bonsoir.
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, anticipe un recul de la croissance dans la zone euro. Elle demande aux Européens une réponse budgétaire coordonnée.
Oui, la Banque Centrale Européenne n'est pas la seule à pouvoir agir. Christine Lagarde l'a dit plusieurs fois lors de sa conférence de presse. Ce que peut faire la BCE, elle, c'est agir sur la quantité d'euros en circulation pour que les banques continuent à prêter à l'économie malgré les incertitudes sur la santé financière de ceux ou celles, particuliers ou entreprises, qui auront des problèmes de trésorerie dans les mois qui viennent. Pour cela, la BCE redéploie donc un outil qui est déjà utilisé en ce moment, mais pour aller plus loin et cibler les cas des petites et moyennes entreprises, elle va rémunérer les banques pour qu'elles prêtent au lieu de leur faire payer un taux d'intérêt. Voilà qui est plutôt incitatif. Parallèlement, les contraintes qui pèsent sur les banques pour limiter leurs risques vont être allégées. Pour fluidifier les échanges sur les marchés financiers, la BCE va également augmenter le montant des produits financiers qu'elle y achète. Ce programme est déjà en cours. Chaque mois, la BCE achète pour 20 milliards de titres de dette d'entreprise ou d'État de la zone euro. Là, elle y consacrera 120 milliards de plus jusqu'à la fin de l'année. Rien, en revanche, pour soutenir l'Italie spécifiquement, il n'est pas encore temps, visiblement, de faire dans le particulier.
Marie, comment expliquer que ces annonces n'aient pas rassuré les marchés financiers qui ont plongé dans la foulée de cette conférence de la BCE ?
Oui, 10% de baisse aux bourses de Londres et Madrid, 8% à Wall Street, 12% à Paris et Francfort, des baisses historiques, 17% à Milan. De facto, les annonces de la BCE n'ont pas compensé le stress créé par la fermeture des États-Unis aux Européens et les ont même aggravées parce qu'elles ont été jugées timides. Alors que répondez-vous au marché qui trouve votre plan décevant comparé à celui de la Banque d'Angleterre ? Demande un journaliste anglais pendant la conférence de presse. Réponse de Christine Lagarde.
Pour les marchés, il faut toujours un peu de temps pour que les décisions soient analysées, disséquées et appréciées à leur juste valeur. Si vous regardez le volume potentiel de prêts qui pourront être accordés, c'est 50% de plus qu'avant. Je ne suis pas sûr que vous trouviez mieux ailleurs. Et d'ailleurs, vous savez, la comparaison, c'est du poison.
Alors pour la BCE, il était aussi crucial de ne pas griller toutes ses cartouches au cas où la situation empirait ensuite. La balle est donc maintenant dans le camp des États de la zone euro qui se réunissent lundi à Bruxelles.
Marie Viennot, merci. Parmi les secteurs économiques les plus touchés par les restrictions mondiales de circulation, il y a les voyagistes. Les agences font une bonne partie de leurs chiffres avec les voyages d'affaires. Mais depuis plusieurs jours maintenant, on ne compte plus les annulations de séminaires et autres conventions d'entreprise. Anne-Laure Choin s'est rendue dans une agence de voyage à Paris, dans le 18e arrondissement.
Heureusement, l'agence d'Olivier Bourgine a encore un peu de trésorerie et elle est adossée à un réseau qui a les reins solides. Mais depuis quelques jours, 90% des appels qui arrivent à l'agence sont des appels d'annulation. Les employés sont priés de prendre leur congé et RTT en ce moment. Cette crise arrive alors que le secteur se remettait tout juste du fort impact de la crise des gilets jaunes puis des grèves de la fin d'année. Olivier Bourgine.
L'ensemble des déplacements professionnels s'est arrêté. C'est 70% de notre activité. Les premières annulations qu'on a eues, évidemment, concernaient la Chine. Puis le gouvernement a fait des annonces, et une en particulier, en demandant aux ressortissants d'éviter de voyager. Tout a été pris à la lettre, tout s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on annule des séminaires en Espagne, on annule des réunions à Londres, à peu près 75% de baisse sur mon chiffre d'affaires.
Les représentants du secteur ont dénoncé des recommandations qu'elles estiment maladroites du gouvernement, des recommandations de limiter les voyages qui font que Stéphanie, employée de l'agence, enchaîne depuis quelque temps des appels téléphoniques dont elle aimerait se passer.
La difficulté vraiment essentielle, c'est le discours qu'on doit tenir vis-à-vis du client, la position que nous avons en tant qu'intermédiaire, et d'essayer de rassurer les clients, essayer de ne pas être confronté à des clients qui vont être un peu pas très heureux d'entendre que leur hôtel ne sera pas remboursé, que leur billet ne sera pas remboursé. Ils n'admettent pas qu'il va y avoir des pertes financières. On nous demande d'être bienveillants, on nous demande d'être souriants, on nous demande de rassurer les clients, mais il n'y a personne qui nous rassure.
L'autre crainte, c'est que, agacés de ne pas pouvoir être remboursés, les clients se séparent également de leurs voyagistes. Quant à Olivier Bourgine, il envisage d'avoir recours au chômage partiel si la situation s'éternise.
Anne-Laure Choin, merci. Coronavirus, jusqu'où sommes-nous prêts à limiter nos libertés? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat, juste après ce journal. La Cour des comptes publie aujourd'hui un rapport très critique sur l'enseignement professionnel. L'institution pointe des surcoûts injustifiés. Ce rapport intervient 10 ans après la réforme de 2009 qui avait généralisé le baccalauréat professionnel en 3 ans. Le reportage d'Akin Kasmi.
Le rapport est sévère contre le bac professionnel, à commencer par son coût, 15% de plus que les autres filières. La scolarité d'un élève en lycée professionnel est de 12 700 euros par an contre 11 000 pour ceux des autres lycées généraux et technologiques. Des données brutes qui ne tiennent pas forcément compte de la spécificité du bac professionnel, qui demande aussi beaucoup plus de moyens matériels et fonciers, car il nécessite des machines-outils et des ateliers, notamment pour la mécanique, la chaudronnerie, la menuiserie ou encore la boucherie. Le statut des enseignants, lui aussi, est remis en cause par la Cour des comptes, qui estime que les professeurs ne travaillent pas assez en lycée professionnel du fait des nombreuses semaines où les élèves sont en stage en entreprise. Ce que dénonce Sigrid Girardin, la secrétaire générale du SNUEP FSU.
Alors je rappelle qu'il y a un temps énorme qui est consacré au fait d'aider les élèves à trouver un lieu de stage, pendant qu'ils sont en stage, à régler les soucis qui peuvent apparaître pendant leur lieu de stage, évidemment à effectuer toutes les certifications obligatoires pour l'obtention du diplôme de nos élèves. Et tout ça dans les décharges horaires qui nous sont affectées, qui sont de l'ordre de 2-3 heures semaine, puisqu'on suit les autres classes qui ne sont pas en stage pendant ce temps.
Les sages de la Rue Cambon préconisent également de regrouper les lycées professionnels de moins de 500 élèves pour faire des économies, ce qui poserait des problèmes de maillage sur l'ensemble du territoire, notamment pour les élèves habitant en zone rurale. Enfin, pour mutualiser les effectifs d'enseignants, le rapport suggère également de favoriser les redéploiements des enseignants des lycées professionnels dans les collèges.
Hakim Kasmi, merci. La disparition de Toni Marshall, seule femme à avoir reçu le César de la meilleure réalisation. La réalisatrice franco-américaine est morte aujourd'hui à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
Toni Marshall avait décroché le César pour son film le plus célèbre peut-être, Vénus Beauté.
Effectivement, Vénus Beauté, institué avec Nathalie Baye, son grand succès critique et populaire à tel point qu'une série télévisée est née de ce film, Vénus et Apollon, également réalisé par Toni Marshall. Elle a d'abord été actrice, une petite actrice selon ses propres termes, sans technique et sans formation. On l'aperçoit notamment dans l'émission culte de FR3, du dimanche soir, Merci Bernard, de Roland Topor et Jean-Michel Ribes, un pot pourri de sketchs décalés. C'est en 1989 qu'elle se lance dans la réalisation avec Pentimento. On retiendra également Pas très catholique avec Anémone, un portrait féminin attachant à l'image de beaucoup de ses films. Toni Marshall était une femme engagée en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cinéma. Elle avait été à l'initiative du port du ruban blanc lors de la cérémonie des Césars en 2018 pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et dernièrement, elle avait aussi salué, je cite, « le cran dont avait fait preuve Adèle Haenel », qui avait accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel.
Antoine Maretz, merci. La météo demain, variable sur la majeure partie du pays, mais quatre départements restent en vigilance orange, inondation, le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime et l'Eure. Les températures minimales seront fraîches, de 1 à 12 degrés du nord au sud le matin. Les maximales seront comprises entre 10 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.